Réplique, Dieu des chrétiens, Dieu des musulmans, avec Raleb Bencher et François Jourdan. Au Moyen-Âge, le dialogue des religions était chose courante et prenait la forme souvent rugueuse de la disputatio, comme l'atteste notamment la controverse entre Manuel II paléologue et un docteur musulman évoqué par Benoît XVI dans sa désormais fameuse conférence de Ratisbonne. Les temps modernes mirent fin à cette tradition en proclamant haut et fort le principe de la tolérance et en renvoyant les religions dans la sphère privée. Mais voici que Dieu est de retour dans l'espace public et dans l'histoire. Voici que les religions s'affirment à nouveau. Et le dialogue renaît, mais c'est un dialogue vicié, ou plutôt aseptisé, par ce à quoi il s'oppose, la guerre. Contre la logique meurtrière de l'affrontement, on célèbre, en guise de dialogue, le fait même de l'échange, ou l'idée que l'islam, le christianisme et le judaïsme sont les trois branches d'un même arbre généalogique, les trois religions du livre, les trois manifestations, les trois variantes d'une identique et pacifique inspiration. Les choses ne sont peut-être pas aussi simples, et il n'est pas sûr non plus que les bons sentiments soient la réponse la plus appropriée au fanatisme sanglant. Le temps me paraît au contraire venu ou revenu d'un dialogue vrai. À cette fin, j'ai invité le père François Jourdan et Raleb Bencher. François Jourdan est docteur en théologie, en histoire de religion et en anthropologie. Il est aussi, depuis 1998, délégué du diocèse de Paris pour les relations avec l'islam et il publie aux éditions de l'œuvre « Dieu des chrétiens, Dieu des musulmans ». Raleb Bencher anime l'émission Islam le dimanche matin sur France 2. Il préside la Conférence mondiale des religions pour la paix et il a publié notamment La laïcité au regard du Coran aux presses de la Renaissance. Dans votre livre, François Jourdan, vous prenez le contre-pied du discours dominant. Vous parlez de ce qui sépare plutôt que de ce qui rapproche, et même vous montrer que ce qui rapproche en apparence sépare en réalité. Ainsi mettez-vous en doute l'affirmation selon laquelle chrétiens et musulmans ont le même Dieu. Votre souci, faut-il le dire, n'est pas d'attiser la haine, mais d'approfondir la compréhension. C'est dans cet esprit que je vous demande quelle différence il y a entre la vision chrétienne et la vision musulmane du Dieu unique. Voilà. François Jourdan.
Merci de me donner la parole. En effet, je crois qu'il y a souvent maldonne et incompréhension sur les mots, parce que le livre que je viens de sortir, en effet, aux éditions de l'œuvre, montre le pape Jean-Paul II qui est à côté du grand mufti d'Istanbul, tous les deux tournés vers la Mecque, et donc, je dirais, avec le titre « Dieu des chrétiens, Dieu des musulmans », il n'y en a bien qu'un seul, c'est l'unique. Mais ce n'est pas le même. Je pense qu'il faut en effet maintenir l'attention. Surtout qu'en français, c'est l'expression qui piège constamment dans nos relations islamo-chrétiennes, les mots sont piégeants et les mots mentent, donc il faut arriver à clarifier, et c'est le rôle de ce livre que j'ai voulu faire, c'est que en français, en langue française, le mot même est à bannir dans les relations islamo-chrétiennes. C'est jamais même, c'est jamais comme. Ça ressemble, mais ce n'est pas ça, parce que même veut dire en français deux choses, il est double le mot lui-même, et donc il est piégeant. Il veut dire unique, mais il veut dire aussi identique. Alors c'est le même dans le sens où c'est le Dieu unique, nous avons le même Dieu, bien sûr, il n'y en a qu'un, forcément le même, numériquement ou algébriquement, enfin c'est plat de dire ça. Et puis, c'est point de vue identique, ah ben non.
Et là-dessus, pourquoi non ?
Là-dessus, il suffit dans nos relations, quand nous rencontrons avec les musulmans, je sors la tirette imparable, hein, tout de suite. Chez les chrétiens, Dieu est trinité, chez les musulmans, pas question.
Dieu est quoi ?
Trinité.
Trinité, oui.
Alors, vous voyez bien que c'est pas le même à ce niveau-là. Donc, sur le plan identique, c'est pas le même. Donc, il y a mal donné, on ne se comprend pas. Donc, je crois qu'il faut bannir si on veut se comprendre, pour arriver à une véritable dialogue, hein, et à pas se récupérer. Parce que là, il y a récupération. Quand on dit même, chut, Le chrétien oui, s'en récupère.
Mais justement, donc, en effet, il y a sur votre livre la photographie du pape et
ils sont tous les deux tournés vers le Dieu unique.
Citez Jean-Paul II qui réagissait, dites-vous, face à un Dieu qui est seulement majesté et jamais Emmanuel, Dieu avec nous. Cette différence?
C'est bien là les différences, c'est que du côté des chrétiens, nous pensons que Dieu s'est révélé sur son mystère. Dans le Coran, Dieu envoie des messagers, etc., des messages, mais il ne se révèle pas, il reste raïb, il reste mystère, impénétrable, as-samad, le mot de la sourate 112 qui est très connu, impénétrable. Chez les chrétiens, il n'est pas impénétrable. Et il a voulu, c'est ce que croient les chrétiens, on peut ne pas être d'accord, ça ne me gêne pas, et ça ne me gêne pas la différence, mais au moins qu'on la reconnaisse. Donc il a voulu, par l'alliance, entrer dans l'alliance avec le peuple juif, il y a un peuple élu dans la doctrine chrétienne, et nous rapprochons là-dessus, nous sommes juifs. Bon, du côté musulman, ça ne marche pas, il n'y a pas l'alliance biblique, elle ne fonctionne pas. Il y a des pactes, mais il n'y a pas l'alliance biblique, c'est une séparation très grande dans nos doctrines. Ça ne me gêne pas qu'on soit différent, mais qu'au moins on reconnaisse ça pour se comprendre.
C'est ce que veut dire Emmanuel, c'est ça, Dieu avec nous.
Alors attendez, l'alliance en question fait que Dieu va s'investir dans cette alliance et avec Jésus, croient les chrétiens, les juifs ne le reconnaissent pas, mais les chrétiens disent qu'avec Jésus, cette alliance est ouverte à tous les peuples et du coup, Dieu a ouvert son cœur à tous, pas seulement au peuple juif, mais à tous les hommes. Et pour se donner. Alors ça, évidemment, c'est une perspective qui est complètement étrangère au Coran. Et je pense que le Coran, à ce niveau-là, et l'islam, n'est pas une religion biblique, parce qu'il est complètement différent au plan dogmatique. Et donc la vision qu'on a de Dieu, quand nous disons chez nous, les chrétiens, que Dieu est amour, d'ailleurs nous le disons, c'est dans nos textes, dans la première lettre de Saint Jean, chapitre 4, plusieurs fois c'est dit tel cœur, en toutes lettres, si Dieu est amour, c'est pour ça qu'il est Trinité, c'est parce qu'il est sauveur, etc. Or, dans le Coran, Dieu n'est pas sauveur. Al-Mukhalis ou Al-Fadi, qu'on dit chez les chrétiens arabes, c'est des mots qui ne sont pas utilisés dans le vocabulaire des musulmans. Moi, ça ne me gêne pas, et je n'ai pas à juger ni les musulmans ni les chrétiens, mais qu'au moins, nous soyons d'accord pour reconnaître ça.
Est-ce que vous êtes d'accord pour reconnaître cette différence, Khaled Mencher?
Moi, en aucun cas et d'aucune manière, les différences ne me gênent. Au contraire, je les utilise comme le lieu de la médiation et de la rencontre. Mais je voudrais plutôt revenir sur des questions un peu plus fondamentales et préliminaires. Le dialogue de nos jours, que nous appelons de tous nos voeux, me paraît en tout cas stratifié. On ne parle pas de la même façon des questions qui relèvent de l'éthique que des questions purement théologiques. On ne parle pas de la même façon des choses qui relèvent de la mystique que des questions artistiques. Or, le père François Jourdan est à juste raison et il renoue avec cette longue tradition des disputationes que vous avez évoquées, veut d'emblée se placer sur un plan théologique. C'est très bien, nous nous en réjouissons. Mais pourquoi faire? Parce que le dialogue, quand il a lieu et quand nous nous comprenons, et il faudrait que nous nous comprenions pour un dialogue vrai, j'ai entendu à l'instant l'épithète, c'est pour que les croyants ensemble s'engagent ensemble pour la justice, pour la paix. C'est ça la finalité. En revanche, les ratiocinations, les élucubrations d'ordre théologique n'engagent que les théologiens, et je fais mienne la parole d'Athénagoras quand il a dit « Réunissons les théologiens sur une île déserte, le jour où ils se mettraient d'accord, ils pourraient réinvestir le monde. »
Oui, mais attention, parce que je le disais aussi, comme il y a toujours là l'espèce de repoussoir de la confrontation, de l'intégrisme, etc., le dialogue semble devenir à lui-même son propre contenu, sa propre finalité. On a l'impression, en effet, que les religieux modérés de l'islam, du christianisme et parfois du judaïsme se réunissent pour dire « Vous voyez bien que nous sommes frères ». Et ils ont malgré tout des arguments à consonance théologique dont je voudrais que nous parlions un peu, puisqu'ils disent « Nous sommes fils d'Abraham et nous sommes trois versions de la religion du livre. Nous sommes les peuples du livre. » Alors, j'aimerais en savoir un peu plus, parce qu'il me semble que même sur les questions qui vous obsèdent et qui nous hantent, qui nous tourmentent tous, un peu de lucidité ne fait pas de mal. Il faut qu'on sache quels sont les préalables. Il ne faut pas qu'on s'invente une fraternité mensongère. Oui ou non, parle-t-on du même livre quand on dit que le christianisme est une religion du livre et l'islam est aussi religion du livre? Je vous pose la question à l'un et à l'autre.
Je n'ai pas fini, tout simplement, j'étais en train de dire, en guise de préambule, l'utilité, la fin de ce genre de dialogue. Que nous parlions maintenant pour qu'on échappe à cette ivresse des nous fusionnels, avec tout le relativisme, l'irénisme, le syncrétisme, le concordisme, l'angélisme de pacotille, ce succès d'année, un ersatz de mauvaise aloi d'un mieux vivre ensemble, je suis d'accord, et c'est le débat théologique qui peut nous éclairer, à condition qu'on ne prenne pas ses propres références comme base de discussion. Nous essayons ensemble d'être tels les philalètes, cette aletheia chère aux Grecs, d'être ensemble des chercheurs de la vérité. Et là-dessus, c'est vrai qu'il y a des différences fondamentales sur le plan dogmatique et sur des points doctrinaux. Il ne s'agit pas de les nier, il ne s'agit pas de les gommer, ils relèvent de l'indélibérable ou du non négociable. Mais nous devons les aborder avec beaucoup de sérénité, trêve d'ébullition, d'effervescence là-dessus, parce que ce n'est pas notre propre lecture que nous devons projeter sur l'interlocuteur, notamment en ce qui relève de ces questions théologiques. Alors, qu'est-ce qui fait problème? J'ai lu avec grand intérêt l'ouvrage de François Jourdan. Ce sont toujours les questions classiques qui reviennent. Bon, le statut du Coran, parole de Dieu, révélation, Dieu, le prophétisme. Très bien, qu'un chrétien, qu'un juif n'adhère pas à la vision islamique de ce qu'il a de la prophétologie ou de la révélation, j'allais dire ce n'est que tant mieux, parce que sinon il cesserait ipso facto d'être chrétien ou d'être juif. C'est pour ça qu'il faut les reconnaître, c'est pour ça qu'il faudrait le dire. Et de ce point de vue-là, François Jourdan a raison. Là où je ne suis pas d'accord, à titre personnel, c'est que nous nous attendions de la part de François Jourdan, éminent théologien, grand intellectuel, se présentant comme un islamologue, c'est de s'inscrire dans la grande lignée des Gardés, des Corbin, des Massignan, des Berck, des Blacher, et il s'est inscrit, hélas, en citant les Tribala, les Annie Laurent, les Shador Djavan, les Anne-Marie Delcambre. Or, malheureusement, ce n'est pas cela qui fait avancer le débat, c'est tout.
Alors, Père Jourdan.
Je pense que Berck, Massignan et compagnie ne sont pas des théologiens. Et c'est le déficit théologique, et c'est là aussi où nous démarquons, mon cher Raleb, que le déficit théologique est grave. Parce que la théologie, on la rencontre tout le temps, il ne faut pas la limiter aux théologiens, en disant, voilà, laissons-les sur une île déserte, etc. Pas du tout. Parce que quand je vais acheter mon thé à la menthe au petit marchand marocain qui est ouvert jusqu'à 23h le soir dans nos rues de Paris, eh bien, on parle spontanément, très facilement, tout de suite, le musulman va dire, ah mais moi je reconnais Jésus. Ben, je suis désolé, mais s'il reconnaît Jésus, alors pourquoi il n'est pas chrétien? Ben, c'est parce qu'il ne reconnaît pas Jésus. Enfin, on ne parle pas du même Jésus. Alors, c'est ça et c'est pas ça. C'est la règle que je vois. Alors, il faut bien, on rentre dans des questions théologiques immédiatement. Mm-hmm. C'est pas réservé aux théologiens. Alors, donc, pour revenir à la question du livre, vous avez posé la question du livre, religion du livre. Ben, là aussi, c'est la bouteille à l'encre. De quel livre parlons-nous? Alors, les musulmans, ben, ils reconnaissent pas la Bible, elle est falsifiée. Bon, alors...
Attends, un mot là-dessus, parce que je crois que c'est très important, et c'est là où la théologie peut s'articuler d'une manière ou d'une autre sur le présent le plus brûlant. Mm-hmm. Selon vous, et je voudrais en savoir davantage, mm-hmm. le Coran dit que les juifs et les chrétiens ont trafiqué leurs écritures. Autrement dit, Abraham, au départ, était musulman, ce qui voudrait dire que l'islam est à la fois à l'origine et à l'arrivée. C'est la religion originaire, c'est la religion récapitulative, et cette question des juifs et des chrétiens qui ont trafiqué leurs écritures est extrêmement présente. Et donc, j'aimerais que vous élaboriez l'un et l'autre là-dessus. Enfin, si tel est le cas dans l'islam, il me semble que ça doit rendre le dialogue un peu tendu, non?
C'est-à-dire que nous ne comprenons pas. C'est ça le problème. Alors, constamment, le musulman nous dit, avec toute grande gentillesse d'ailleurs, nous reconnaissons toutes les révélations antérieures. En fait, c'est pas vrai, puisque la Bible n'est pas reconnue. Vous voyez, tous les dés sont pipés. Donc il faudrait, et moi je demande une rigueur, simplement, simple, sans être sans crispation, mais une rigueur dans notre manière de parler. Et que nous cessions de dire des choses confuses. Quand je vois par exemple, que je cite, c'est typique, mais tout le monde se plante, hein, monsieur Michel Cantedessus qui dit, quand il était encore à l'époque en fonction, comme dire, au Fonds Monétaire International, c'est pas à n'importe qui, et bon, eh bien, je suis frappé, dit-il, par la méconnaissance pathétique de l'islam en Occident. Et alors lui, qu'est-ce qu'il va donner? Ben, il va montrer sa méconnaissance. Je cite, « Avec l'islam, nous partageons la Méditerranée, nous partageons le livre. » Ah bon? Et nous sommes tous fils d'Abraham. Ben, je suis désolé, moi je ne suis pas fils de l'Abraham qui va à la Mecque et qui a reçu un livre descendu du ciel. Ah bon? Parce qu'Abraham est allé à la... Ah ben, le mien, mon Abraham, il n'y a pas été. Alors vous voyez, c'est lui et c'est pas lui. Le livre, de quel livre parlons-nous? Moi, j'ai cru comprendre. Alors, si c'est pas ça, moi, j'aimerais que nos amis musulmans, et Haralem en particulier, puissent me le dire, si mon schéma est faux, hein, dans mon livre. Mais je pense qu'il s'agit du livre mère qui est au ciel, la Umm al-Kitab dont parle le Coran. Ça, c'est une conception typiquement coranique, hein, à partir duquel Djibril, le Gabriel islamique, oui. Mais qui n'est pas le Gabriel biblique, parce que le Gabriel biblique, il n'a pas ce fonctionnement-là, bon, et qui lit ce texte qui est au ciel et qui le souffle, le transmet depuis Adam jusqu'à Mohammed aux différents prophètes que le Coran envisage. Bon, ça, c'est un fonctionnement qui n'est pas biblique et qui n'est pas chrétien. Bon, alors quand on parle des religions du livre, nous ne sommes pas d'accord. Que les musulmans nous voient comme étant nous-mêmes, juifs et chrétiens, des religions du livre qui ont falsifié et qui ont dévié, parce que Moïse était musulman et que Jésus était musulman, qu'il a reçu un livre, Injil, descendu du ciel, c'est leur fonctionnement, nous ne nous y reconnaissons pas dedans. Donc nous ne sommes pas les trois religions du livre. C'est une expression islamique, l'al-kitab, c'est pas les religions, mais c'est les gens du livre qu'on trouve dans le Coran, mais des vrais chrétiens et des vrais juifs d'origine qui étaient musulmans et qui ont dévié. Donc quand on parle des chrétiens, il faudrait préciser si c'est les chrétiens coraniques, c'est-à-dire les vrais chrétiens d'origine qui ont suivi le vrai Jésus musulman et avant que ce soit dévié, ou s'il s'agit des chrétiens de l'histoire qui sont ce que nous sommes aujourd'hui. Tous les dés sont pipés dans la compréhension. C'est ça le problème qui grève notre difficulté de compréhension.
Alors, Harlem Bencher, un mot et je vous donne tout de suite la parole. Il est vrai que pour le Coran, tous les prophètes sont musulmans, ils sont impeccables, ils ne peuvent être défaits par les ennemis de Dieu. C'est pourquoi Jésus n'est pas mort sur la croix, un sosie lui a été substitué, et l'actualité là-dessus, a été assez démonstrative, que lorsque le colonel Kadhafi est venu en France, il a fait une leçon de théologie qui n'a pas été relevée. Il a quand même expliqué aux chrétiens qu'ils se trompaient, que Jésus n'est pas mort sur la croix, et personne n'a commenté ce propos. Certes, ce n'est pas un théologien, mais vous voyez que ces problèmes théologiques ne peuvent pas être encapsulé et exclu d'une discussion qui porterait sur des questions plus importantes.
Bien, on va balayer d'un revers de main tranquillement l'affaire de l'illuminé exalté qu'est le colonel Kadhafi et dont la venue ici était un scandale avec cette histoire de tente. Donc je ne vois pas en lui le parangon du théologien ou du musulman qui serait habilité à parler au nom de l'ensemble des musulmans. Maintenant que cette affaire est réglée, je reviens, et là aussi en toute sincérité et sérénité. François Jourdan, qui est un fin arabisant, n'arrive pas à distinguer l'islam dans son acception étymologique et dans son acception culturelle. Quand Abraham est présenté comme le premier musulman, c'est le premier qui s'est remis à Dieu parce qu'il a consenti à offrir son fils en holocauste à Dieu, il a fait acte d'islam. Quand Moïse se conforme au précepte divin, il ne fait rien d'autre qu'un acte d'islam. Quand notre Seigneur Jésus fait son ministère apostolique, quand il l'accomplit, il agit en musulman, pas celui qui se prosterne 5 fois par jour, qui jeûne pendant le mois de Ramadan, et qui devient mahométan selon les turqueries de Molière. Il est musulman étymologiquement, il n'est pas musulman religieusement ou culturellement. Ça, c'est déjà un point fondamental. Alors la question maintenant du gauchissement, du réagencement, de l'harmonisation de quelques références scripturaires, si le musulman devait les prendre telles quelles, in extenso, ben il serait plus musulman, il est ou juif s'il s'arrête à Malachi, ou il est chrétien s'il voit en la personne même de notre Seigneur Jésus l'hypostase d'une essence et qui s'hypostasie en père et fils. Le mystère, c'est dans nos dans nos références et dans nos canaux différents pour une même transcendance. C'est ça le mystère dont nous prenons acte.
Mais vous prenez acte de ce mystère, mais que représente la Bible pour un musulman? C'est-à-dire, que faites-vous de cette affirmation selon laquelle les juifs et les chrétiens n'auraient pas compris, voire auraient trafiqué leurs propres écritures?
Alors, j'apprécie ce conditionnel. Parmi les lettrés, les instruits, ceux qui sont pétris de connaissances, cette fois-ci théologiques, eh bien, les musulmans considèrent effectivement les écrits vétéraux et néo-testamentaires comme d'inspiration divine, et c'est le socle même de ce livre archétypal dans l'Empyrée céleste et qui a été donné à Mohammed. Pourquoi? Parce qu'il s'agit d'un même logos divin, celui qui a été dicté à Moïse, et c'est celui qui s'est incarné en la personne même de Jésus, et c'est ce même logos qui a été donné aussi à Mohammed. C'est vrai qu'il y a une différence fondamentale là-dessus. Encore une fois, on en prend acte. Maintenant, tel ou tel passage, pas reconnu comme tel, la preuve, il y a tout un débat, et qui n'est pas nouveau. Saint Jean Damascène, cité à deux reprises, et aussi par le préfacier Rémi Brague, n'est pas d'accord là-dessus, et c'est son droit le plus absolu. Le patriarche catholicos, le nestorien catholicos premier, n'était pas d'accord là-dessus, et c'est aussi son droit le plus absolu, eh bien, ne reconnaissait pas dans le paraclet la venue de Mohammed. C'est très bien, on en prend acte, ça ne pose pas de problème. Dante a placé Mahomet dans le pandémonium, le lieu de tous les démons. Ça n'a pas empêché, juifs, chrétiens et musulmans, à travers les âges, cas, avec des creux et avec des moments de rencontre, de continuer. C'est pour ça que je dis ce qui prime pour maintenant, c'est certes d'élucider les questions théologiques, ne pas en faire une lecture qu'on projette sur autrui, c'est tout.
Oui, alors, il y a une chose où je me sens pas à l'aise, dans les propos de Ralem, mais que je reconnais tout à fait chez beaucoup de musulmans, c'est cette propension à aimer la confusion. Je le dis un peu directement. Quand il dit, par exemple, qu'il prend acte des différences et qu'avec ça, il nous parle, à l'instant même, de Jésus musulman. Et qu'un tas de gens sont musulmans parce qu'ils se remettent à Dieu. Mais c'est pas du tout dans le même type de relation que nous avons à Dieu. Se remettre à Dieu, ça dépend ce qu'on met sous les mots. Et là, c'est confus. Ça couvre un tas de choses. Quand il dit qu'il reconnaît la révélation vétéro et néo-testamentaire, je ne comprends plus rien, puisque c'est au contraire tahrif dans le Coran, qui n'est pas reconnu par les musulmans et que justement, ils n'ont pas accès à ces textes dans les pays musulmans. S'ils le reconnaissaient, ils devraient avoir accès. Donc, on est dans la confusion. Alors là, moi, je dis, c'est là, il faut pas occulter nos différences, tout en disant qu'on les accepte, en fait on les accepte pas, on en a même peur, et je crois que c'est la raison profonde pour laquelle il y a l'éloignement, on met à l'écart tout ce qui est doctrinal. Oh, faut surtout pas parler de ces choses-là, ou faut les réserver à des spécialistes. En fait, même réservé aux spécialistes, on ne le travaille pas entre nous, ce qui fait que ce livre que j'ai fait, mais il y a 25 ans qu'il aurait dû sortir, on n'ose plus parler de ces questions doctrinales. On a peur, on est dans une France qui est pas seulement laïque, mais qui est un peu laïcarde, qui a peur des religions. C'est une peur inavouée qu'on ne veut pas se reconnaître. Et du coup, on se contente d'aborder les religions seulement d'un point de vue historique ou sociologique, c'est-à-dire extérieur. Mais surtout pas les questions doctrinales. Ce faisant, eh ben, ça fait des années que nous laissons en jachère ce côté doctrinal qui est absolument essentiel dans la mesure où c'est l'identité profonde de chacun qui est derrière et qu'on cache sous la table quand on se rencontre. Alors après, on s'étonne que les groupes de relations islamo-chrétiennes marchent pas parce que ça tourne en rond. Vous avez Magdala, par exemple, qui vient de s'arrêter.
T'étais quoi, Magdala?
Eh ben, c'est un groupe, justement, qui est lié à la fraternité monastique de Jérusalem, à la paroisse Saint-Gervais, à Paris, bon, qui depuis des années fonctionne, Ralem connaît bien.
Pendant 15 ans.
Voilà, 15 ans. Bon, c'est quand même pas mal. Eh ben, ils ont arrêté. Et pourquoi? Ben, parce que ça tourne en rond. Parce que quand on empêche d'aborder justement ces questions, qui sont nos identités profondes dans notre manière d'être avec Dieu, d'aller à lui, et notre manière de voir Dieu qui rejaillit sur notre manière de voir le monde, de nous voir nous. C'est pas du tout innocent, la vision de Dieu. C'est pour ça que je suis content du titre de ce livre. Dieu des chrétiens, Dieu des musulmans. C'est la vision de Dieu qui est en cause.
Et se remettre à Dieu. Vous dites se remettre à Dieu, ce n'est pas la même chose.
Ah, pas du tout.
Alors c'est quoi? Essayez de spécifier. Voilà. Aussi clairement que possible la différence.
Voilà. C'est-à-dire que quand, Jésus nous dit, par exemple, je ne vous appelle plus serviteur, mais ami. Et que tout ce que le Père m'a donné, je vous l'ai fait connaître. Il y a une communion qui est installée entre Dieu et les hommes par l'intermédiaire, l'unique intermédiaire, médiateur, dit saint Paul là-dessus, je crois qu'il a bien vu pour exprimer ça, par l'intermédiaire de Jésus qui est effectivement le pivot entre Dieu et les hommes. Bon, eh bien, ça c'est une vision tout à fait chrétienne, et qui fait que le type de relation que nous avons à lui nous mène, je pourrais citer des textes de saint Jean, pas seulement saint Paul, évidemment, bien d'autres, et même de saint Matthieu, etc., qui nous montrent cette communion qui est proposée entre Dieu et l'homme. Bon, à ce moment-là, le mot « se remettre à Dieu » prend un sens et une coloration tout à fait différente que celui du musulman qui a de tout son cœur, ça je ne nie absolument pas qu'il puisse y avoir des saints en islam, comme il y a des saints dans toutes les religions, même en religion d'ailleurs, la sainteté des personnes n'est pas en cause. Mais le chemin n'est pas le même, c'est-à-dire que la vision qu'on a de Dieu et la relation du musulman qui veut se remettre à Dieu en se rendant à lui dans cette attitude de soumission qui est l'islam, mais où il n'est pas pensable qu'il y ait une communion, ça va trop loin. Moi, j'accepte qu'elle est, mais c'est différent. Donc, nous parlons pas de la même chose quand on met les mêmes mots en utilisant les mêmes mots. Et c'est ça qui est embêtant, c'est que constamment nous utilisons les mêmes mots. Et c'est ça que je n'aime pas beaucoup que dans la relation avec nos amis musulmans. Raleb, je l'aime bien. Mais je n'aime pas quand ils ont cette propension à vouloir justement utiliser les mêmes mots. Récemment, je dînais avec deux musulmans syriens et qui me disaient « Ah, mais moi, ça me gêne pas du tout, je peux très bien dire notre Père à Dieu. » Ah oui, mais je suis désolé. Quand le chrétien dit notre Père, nous mettons pas du tout les mêmes réalités sous le même mot. Quand le chrétien dit notre Père, il se situe dans la Trinité à ce niveau-là. C'est dans le Père qui est en Dieu, dans le cœur de Dieu, du Dieu unique. Il y a le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Et c'est à ce Père-là, quand il dit notre Père. Le musulman, c'est pas du tout sa conception. Donc quand il va dire notre Père, il se rend pas compte qu'il prend les mêmes mots, mais qu'il se situe pas du tout de la même manière. Et ça, c'est occulté. Alors, quand est-ce qu'on pourra un peu plus se comprendre et accepter de dire, ben non, même les mêmes mots, ça ne correspond pas. Et c'est même un travers, c'est un piège, c'est une peau de banane qui nous empêche de nous rencontrer.
Sincèrement, je ne vois pas en quoi il y a toute cette histoire. Quand François Jourdan dit « on a peur », je ne vois pas qui c'est « on ». En tout cas, votre serviteur n'a pas l'air d'avoir peur de quoi que ce soit. C'est avec beaucoup de sérénité que nous en parlons. Deux, c'est vrai qu'il y a des pièges dans le vocabulaire, mais le champ sémantique est piégé et miné, mais dans toute discussion de quelque ordre que ce soit, a fortiori dans des discussions théologiques. Troisième point, quand je dis nous distinguons les acceptions purement étymologiques des acceptions purement religieuses, c'est parce qu'il y a un amoncellement à travers l'histoire, qui donne à tel ou tel mot une telle signification autre. Et même maintenant, de nos jours, vous aurez remarqué que je n'ai jamais dit « le chrétien pense ceci, cela ». Moi, je prends acte et je respecte les canaux vers la transcendance, la relation au Christ que peut avoir un chrétien. En revanche, laissez-nous le droit, laissez-moi le droit, d'avoir aussi la possibilité d'avoir un regard à la fois sur le Christ et aussi ma relation avec le divin.
Vous avez dit tout à l'heure, Alain Bencher, que malheureusement, selon vous, le Père Jourdan ne se référait pas assez à Massignon, à Corbin ou à Jacques Berck. Père Jourdan, vous avez répondu que ce n'était pas vraiment des théologiens. Mais ce qu'il dit aussi dans son livre, c'est qu'il n'y a pas, et peut-être a-t-il tort, et vous le démentirez à ce moment-là, des christianologues en islam. C'est-à-dire, il y a des spécialistes français, occidentaux, chrétiens, juifs de l'islam, voire de la théologie, si le mot peut s'employer musulmane, la christianologie, semble-t-il, ne se déploie pas vraiment en terre d'islam. Donc ce respect dont vous parlez n'est-il pas purement formel et n'est-il pas rendu difficile par la situation englobante où se situe l'islam, puisqu'il récapitule toutes les religions du livre et puisqu'il affirme quand même sa primauté à la fois à travers de l'antériorité et de la postériorité.
Là-dessus, ma réponse est en trois points que je dirai très brièvement. Le premier, par souci de concision et de ne pas mordre sur le temps de parole de François Jourdan, que je ne voulais pas être prolixe. Quand je regrettais, en disant que j'attendais dans l'ouvrage une production de la même facture que celle de Blacher, de Corbin, de Massignon ou de Berck ou de je ne sais trop qui. C'est pas pour dire, quand ils me rétorquent, ce sont pas des théologiens. J'ai regretté que ces citations sont puisées davantage de Chador Djavan, d'Anne-Marie Delcambre, de Michel Tribala et d'Annie Laurent. Il ne manquerait dans cette panoplie qu'Oriana Fallaci. C'est tout, c'est ce que je veux dire. Deuxième point, et très brièvement, il est vrai, et je le déplore, que nous manquons, nous autres musulmans, de christianologues ou de christologues, parce qu'on a à un moment donné parlé d'une christologie plutôt coranique. Je le déplore parce que c'est aussi un manque d'intérêt et éventuellement même un manque de respect. Nous devrions en avoir. Mais ça participe, notamment ces temps-ci, de la régression tragique générale qui caractérise le manque de production intellectuelle, en tout cas en volume suffisant, dans la sphère islamique. Et nous avons besoin là-dessus, effectivement, de nous attaquer sérieusement à des chantiers titanesques qui sont le pluralisme, la liberté de conscience, la condition féminine, la désacralisation de la violence et aussi christologie ou bibliologie ou biblisme. Dernier point, et j'en aurai fini, c'est vrai que dans une métaphore, celle des tables gigognes, on aurait l'idée où on penserait que le judaïsme est inséré dans le christianisme dans l'islam, et voilà que dans une vision séquentielle de la révélation, celui qui parle le dernier a nécessairement raison. Moi, je ne participe pas de cette vision-là, et métaphore pour métaphore, je préfère l'œuvre de Monet quand il a peint une série de toiles de la cathédrale de Rouen. Quand il a peint le matin, ça n'a pas le même jeu d'ombre et de lumière quand il a peint l'après-midi. Eh bien, la révélation faite à Moïse, nous n'en avons pas la même impression et la même vision que celle incarnée même en la personne de Jésus et qu'est-ce celle qui est faite à Mahomet.
Alors, je vais donner tout de suite la parole au Père Jourdan. Un mot quand même sur les personnes que vous avez citées tout à l'heure. Je connais assez bien l'œuvre de Michel Tribala. C'est une démographe républicaine. Elle n'est jamais tombée dans les excès. Elle n'a jamais commis les dérapages d'Oriana Fallaci. Elle n'a jamais écrit que les musulmans se reproduisaient comme des lapins. Et là, je voudrais, si vous voulez simplement, oui, sauver son honneur, en quelque sorte.
C'est que c'est pas une théologienne et qu'elle était uniquement sur des faits sociétaux.
Oui, bien sûr.
Et nous n'attendons pas de la part d'un grand islamologue de tomber dans les travers de faits sociétaux, pour condamnables qu'ils soient, c'est tout.
Bien, alors je donne la parole maintenant au Père.
J'ai dit tout à l'heure qu'on se contentait trop souvent d'aborder les religions d'un point de vue sociologique ou historique, mais je ne suis pas contre le fait qu'on le fasse, hein, mais simplement le fait qu'il manque la théologie. Alors, je fais certaines références parce qu'il faut bien, par moment, justement, s'appuyer sur la confusion qui règne et que je montre parce que beaucoup ne veulent pas la voir. Hein. Et je maintiens encore, notre ami Raleb, je maintiens encore que je n'apprécie pas beaucoup quand il joue sur les mots. En utilisant ce mot de musulman et d'islam dans un sens archéologique, etc., et qui fait qu'en fait, on est extrêmement récupérateur, parce qu'à ce moment-là, tous les gens qui ne sont pas musulmans, on les considère comme des musulmans. C'est la confusion, et ça, je ne suis pas d'accord. Dès le Coran, dès l'origine historique de l'islam, on est déjà dans la confusion, puisque le Coran lui-même utilise, par exemple, le mot « nabi » en arabe, qu'on trouve « nabi » dans la Bible hébraïque. Alors, on va dire, vous voyez, c'est prophète, ça, dans les deux sens, vous voyez, dans les deux côtés, donc c'est la même chose. Et en fait, justement, c'est pas la même conception du prophétisme. Mmh. Alors, qu'il y ait des gens qui travaillent, qu'ils soient théologiens ou pas, mais pour essayer de clarifier les choses et que Madame Delcambre, en point de vue de l'islamologie, puisse donner des éléments. Moi, je la connais pas personnellement, j'en parle avec toute liberté, hein, mais que dans ses travaux, elle aide à réagir devant cette confusion générale entretenue. Et encore une fois, je maintiens que du côté des musulmans, c'est pas bien ça d'entretenir cette confusion. Parce qu'à ce moment-là, ça n'aide pas la rencontre avec l'autre. Du coup, eh ben, on fait des rencontres où on piétine et on peut pas avancer, on s'étonne que le dialogue ne marche pas.
Il y a notamment une difficulté aussi, c'est précisément la situation, la question de l'intégrisme, la tentation qui peut exister chez les uns ou chez les autres de confondre dans un même opprobre l'islam et l'islamisme, et la question qui se pose de leur rapport. Alors je voudrais justement, à cet égard, me concentrer sur un problème, disons, théologique, mais qui a une application immédiate dans la réalité que nous vivons. Ce problème, c'est celui de l'apostasie. Il est dit dans le Coran, pas de contrainte en religion, verset que vous citez, François Jourdan, qui daterait du début de l'Égire. Pour autant, le ministre français de l'Intérieur, Jean-Pierre Chevènement, lorsqu'il a voulu organiser le culte musulman, a demandé une reconnaissance de la liberté religieuse sans restriction, y compris la liberté de changer de religion, conformément à l'article 18 de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Or, il se trouve que les musulmans, en particulier l'UEIF, ont refusé cette clause et le ministre laïque s'est exécuté en retirant l'article sur le changement de religion. Autrement dit, cela fait une difficulté aujourd'hui et cela semble tenir effectivement à la définition même de l'islam. Y a-t-il là un verrou? Faut-il le faire sauter? Qu'en pensez-vous, Khaled Belcher?
Ça demanderait davantage de temps, mais j'irai là aussi à la concision. Deux choses. L'affaire du ministre laïque qui se serait rétracté n'est pas parce que l'UOIF avait, sans vouloir plaider la cause de l'UOIF, c'est pas mon propos aujourd'hui. C'est de dire que c'est lorsqu'une telle demande sera de faite, aussi bien aux autres croyants, juifs, chrétiens, bouddhistes, nous serions prêts à signer. Pourquoi stigmatiser exclusivement les citoyens musulmans en leur demandant de signer cette charte? À ma connaissance, c'est pour ça que finalement l'affaire n'a pas eu lieu. Je rapporte simplement des faits. Maintenant, pour revenir à quelque chose de fondamental. C'est vrai que nous autres musulmans, encore une fois, souffrons de cette barbarie qui consiste à châtier du crime de la peine capitale, somme toute pour une affaire de liberté de conscience, qui n'a pas de fondement coranique, mais qui s'est aussi amoncelée à travers l'histoire, et que voir des gens pendus en Iran pour conversion à une autre tradition religieuse est une honte. Votre serviteur s'est exprimé clairement là-dessus, et au lieu de citer à tout bout de champ, pas contrainte en la religion, la voix droite se distingue clairement de l'erreur, et malheureusement la lecture de François Jourdan là-dessus est du genre « mais ceci a été abrogé par les versets ultérieurs », ce qui est totalement biaisé, et ce n'est qu'une lecture parmi d'autres. Moi, je préférerais brandir, si tant est que ça soit judicieux de le faire avec la révélation, eh bien la vérité émane de ton Seigneur, crois qui il veut, ne crois pas qui il veut. Ou encore cet autre verset beaucoup plus parlant, « Oh vous qui avez cru, s'il advenait que quelqu'un parmi vous renie à sa foi, eh bien Dieu suscitera parmi vous un peuple qui l'aimera et qui l'aimera. » Voilà ce dont je voudrais, si tant est que mes corréligionnaires veuillent bien me suivre, sur cette question-là, régler définitivement cette affaire d'apostasie.
Si tant est que vos corréligionnaires veulent bien vous suivre, sont-ils en voie de le faire? Qu'en est-il de l'apostasie aujourd'hui en France, mais là où l'islam est fort, et évidemment dans les pays musulmans? Est-elle acceptée? Est-elle très difficile? Est-elle exceptionnelle?
Je suis étonné même de la question, parce que en France, et heureusement, nous jouissons d'un climat démocratique et clément qui fera sorte que si quelqu'un a envie, sous le parapluie de la laïcité, de changer de religion, eh bien la loi le lui garantit.
Oui, mais la loi le protège-t-il de ses corréligionnaires, ou bien ceci, y voit-il une attitude tout à fait acceptable, même si elle peut leur paraître douloureuse?
Ça ne devrait même pas leur paraître douloureuse, parce qu'on ne peut pas être plus royaliste que le roi. Si le verset coranique dit, ou des versets, des appels à la clairvoyance vous sont parvenus de la part de votre Seigneur, crois qui il veut, ne crois pas qui il veut. Celui qui est aveugle l'est contre soi, celui qui est clairvoyant l'est pour lui-même. Est-ce à toi de devenir leur curateur? Ça doit leur parler. Malheureusement, nous manquons de doctrinaires ou de sermonnaires qui vont dans ce sens-là. Ça s'explique. Nous n'avons pas le temps de l'expliquer, il faudrait d'autres émissions. Mais en tout cas en France, non seulement la loi doit le protéger, mais en plus, toute atteinte à l'intégrité physique et morale des citoyens, pour quelque raison que ce soit, et a fortiori pour un crime de lèse-conscience, doit être sévèrement sanctionnée. Maintenant, dans les pays dits musulmans, eh bien malheureusement, il n'y a pas de démocratie. Eh bien malheureusement, il n'y a pas une déconnexion du temporel avec le spirituel. Est-ce cela intrinsèque, inhérent, organique, structurel à la pensée islamique? comme le père François Jourdan le soutient dans son ouvrage, eh bien je dis non, c'est conjoncturel, c'est accidentel, le califat n'a pas de valeur sacrale, et cette collusion n'est pas coranique, comme le père François Jourdan le dit.
Ah. Alors, ben, je pense qu'au contraire,
il faut
pas fuir les versets coraniques et la réalité du fondateur qui a lui-même allègrement joué sur le tableau à la fois religieux, politique et militaire, hein, en particulier dans la période de Médine, évidemment. Donc ça, il faut le prendre en compte. Alors, je pense qu'il y a aussi tous ces versets. C'est un peu facile de dire l'abrogation, de toute façon, je laisse passer, etc. Moi, j'aimerais qu'on puisse un jour, entre chrétiens et musulmans, se retrouver et puis dire ce qu'on fait de nos versets difficiles. Il peut y en avoir dans la Bible, il peut y en avoir dans le Coran. Bon, quand le Coran, sourate 19, dit la religion pour Dieu, c'est l'islam, bon, alors que devienne, bon, quand dans la même sourate, au verset 85, qui veut un culte autre que l'islam est rejeté, bon, quand dans une sourate encore plus tardive, qui abroge évidemment tous les versets qui lui seraient opposés, sourate 48, verset 28, l'islam doit supplanter toutes les autres religions, moi je vois que dans le Coran, la question de l'apostasie, elle a ses bases pour être refusée de manière terrible. Et donc, dans l'histoire, faut pas s'étonner que les musulmans puissent s'appuyer sur ces versets-là. Alors, qu'est-ce qu'on en fait? Si on en reste à pas de contraintes en religion, qui justement se trouve abrogé par ceux qui sont arrivés après que je viens de citer, et qu'on met ça tout le temps, il y a une attitude qui est double. Mmh. C'est trop facile de s'appuyer sur ces versets-là, tout en masquant le fait qu'ils n'ont plus de validité.
Mais d'un autre côté, Père Jourdan, il peut y avoir une difficulté aussi, celle de figer les choses. Alors, vous dites vous-même que cette critique de l'essentialisme a quelque chose de ridicule, c'est-à-dire on ne va pas essentialiser l'islam, il y a toutes sortes d'islam, et puis finalement, il n'y en a plus du tout. Et vous rappelez dans votre livre que, aussi divers soit-il, les islams ou les façons de vivre l'islam ont des choses en commun, le Dieu unique et la relation typique que l'on peut avoir avec lui, Mohammed, le livre du Coran, la conception islamique du prophétisme et de la révélation, les cinq piliers, une cohérence fondamentale très caractéristique. Il y a un seul islam, en particulier marqué par l'immense rassemblement du grand pèlerinage annuel. Cependant, même si c'est vrai, même s'il y a une difficulté particulière dans l'islam à disjoindre, disons, le temporel du spirituel, à faire place à la laïcité, l'essentialisme consisterait à dire, bon ben, c'est comme ça, et ce sera toujours comme cela. Là, il y a un risque. Est-ce que vous iriez jusqu'à une affirmation de ce type?
Alors, là, je reviens sur le développement dans ma deuxième partie de mon livre, sur la cohérence profonde de chaque religion. Et c'est pas sur un détail, hein. Là, il s'agit vraiment de conceptions tout à fait essentielles. Et si le prophète Mohammed, prophète de l'islam, hein, lui-même, comment dire, mélangé les terrains et a été à la fois prophète politique et religieux en même temps, hein, c'est pas du tout par hasard. Et là, je pense que ça fait partie d'une cohérence profonde. Alors, si l'islam veut faire un chemin nouveau, je pense qu'il ne faut pas se faire trop d'illusions. Ça va poser à la communauté musulmane, évidemment, des problèmes redoutables du point de vue doctrinal, justement, parce que ça va toucher à cette cohérence profonde. Qu'elle change? Moi, je ne demande pas mieux, hein, mais est-ce que, justement, l'islam va accepter de changer sur des bases qui ne sont pas du tout marginales, mais qui concernent des bases profondes? Parce que ça tient à une vision de Dieu, justement. J'en reviens à cette vision de Dieu qui a l'air de rien comme ça, mais elle n'est pas du tout innocente.
Khaled Bencher.
Oui, mais je voudrais revenir sur cette affaire que la religion de Dieu est l'islam. Encore une fois, coraniquement parlant, et ce verset-là ne veut pas dire la religion de Dieu et le mahométanisme. La religion de Dieu et l'islam, c'est la remise de soi confiante et dans la paix à Dieu. Qu'on en règle ça une bonne fois pour toutes,
ça, c'est
pas de la
confusion.
Je ne joue absolument. Dans quel intérêt? Moi, je n'ai pas envie de convertir les gens pour qu'ils deviennent musulmans. Je témoigne pourquoi, en dépit de tout, je reste musulman. Je ne suis pas soumis à la question. Je suis sur un plan testimonial. Alors, maintenant, pour répondre à la question de François Jourdan. Non, ce qui a été possible à un moment donné de l'histoire le sera. Moi, je suis légataire, héritier, non seulement de Rousseau, de Voltaire, d'Erasme, de Campanella et de More, mais aussi je suis légataire et héritier d'Al-Farabi, d'Avicenne, d'Averroès, d'Al-Ghazal, d'Avenpass, de Razès, pour ne citer que quelques-uns parmi les latinisés. Et pourquoi est-ce que je les cite? Parce que Al-Farabi, dans sa Cité vertueuse, le second Platon, quand il parle de la conquête du bonheur et de la quête du salut, il ne le faisait pas avec des références scripturaires coraniques. Il le fait dans une volonté d'un humanisme d'expression arabe que nous avions pu connaître à un moment donné suite à X raisons, à des facteurs convergents qui ont fait qu'il y a effectivement, et j'étais le premier à souligner cette régression tragique, eh bien nous pourrons en renouer dans une nouvelle production intellectuelle et anthropologique. Et c'est pour ça que je dis ensemble, parce que ce n'est pas exclusivement islamique, c'est une affaire humaine, parce que nous sommes dans un seul monde.
Oui, justement, est-ce qu'il n'y a pas à travailler sur ce domaine qui est justement délaissé et que vous avez tendance à fuir, à mon avis, c'est que le domaine de la doctrine, parce que pourquoi il y a eu cette régression ou ces régressions qui, à différents moments de l'histoire, d'ailleurs, s'est manifestée? Est-ce que la raison, justement, n'est pas justement une raison profonde? C'est que la vision de Dieu, ben, il faut peut-être la reprendre autrement. Vous voyez, elle se retrouve sur un tas de choses. Si le statut du Coran n'est pas du tout le statut de la Bible, et là, quand on fait les comparaisons entre chrétiens et musulmans, elles ne valent pas. À chaque fois, on est piégé, parce que le musulman devant son Coran, avant même de l'ouvrir, et le juif ou le chrétien devant sa Bible, avant même de l'ouvrir, le rapport au texte n'est pas du tout le même. Et pourquoi? Parce que, justement, la vision de Dieu n'est pas la même, et c'est que le texte qui est du Coran est un texte divin à la lettre. Alors, à ce moment-là, c'est bloquant. Donc, il y a des problèmes doctrinaux qui entraîne après le fait que bon ben la liberté est beaucoup plus limitée dans l'histoire de l'islam. Ça, c'est
mais
terrible.
Quand François Jourdan dit ce sont des problèmes doctrinaux que vous voulez fuir ou que je ne sais pas, le vous s'adresse à qui? Si c'est à moi, moi je ne
c'est
les
général,
fuis pas.
C'est général,
les autres, oui, peut-être. Il y a une frilosité, il y a une pusillanimité, il y a un manque de confiance, il y a peut-être une méconnaissance. Mais il faudrait rendre hommage aussi à des intellectuels, à des penseurs, à des théologiens qui, au péril de leur vie, et justement fuyant la chape de plomb qui existe, parce que les théologiens ou les recteurs des grandes universités de théologie, Al-Qarawiyyin, Al-Azhar, la Zaytouna, comme en Iran ou à la Mecque par exemple, n'arrivaient pas à s'affranchir du palais présidentiel dans un cas ou royal dans l'autre. Alors ils essayent, via Internet, via les canaux satellitaires, via leur propre travail, effectivement, de s'attaquer, et d'une manière peut-être beaucoup plus hardie, beaucoup plus audacieuse, qu'on en appelle François Jourdan. Simplement, ça ne se connaît peut-être pas encore, il faudra du...
Oui, mais alors pourquoi cette hardiesse? Et ce sera ma dernière question, malheureusement, et donc peut-être consacrerons-nous une autre émission à des thèmes comme celui du djihad et de sa signification religieuse ou non, mais comment se fait-il que cette hardiesse dont vous parlez ne se retrouve pas dans le dialogue entre chrétiens et musulmans? Pourquoi cette impression d'un bal masqué, pour reprendre une expression de François Jourdan, ou ce sentiment de tourner en rond? Si hardiesse il y a, on aimerait qu'elle soit présente aussi dans ce dialogue.
Et alors, il faudrait reconnaître et rendre hommage à François Jourdan d'être le chantre et le champion de cette volonté d'un dialogue dit vrai. Et le dit n'est pas une condescendance de ma part. Les autres, pour peu qu'on n'aborde pas ces questions qui fâchent, allez, on est ensemble et on œuvrera pour la paix. Apparemment, ça ne marche pas vraiment bien. Simplement, et là aussi, le dialogue d'ivré de type théologique, et même sur les questions de vocabulaire. Mais je suis désolé, nous avons un vocabulaire que nous utilisons, c'est pas une volonté de jouer sur les mots, ce n'est pas pour entretenir la confusion. Et même là-dessus, j'ai bien peur que c'est peut-être François Jourdan, je ne dis pas par volonté de manque de probité intellectuelle, mais quand il cite Torah, l'Injil, il les laisse tel quel en arabe, même en français, mais le Coran, il ne met pas le Coran, il met Coran. Je ne comprends pas pourquoi spécialement la Torah et l'Évangile, il les arabise. Ibrahim, il met pas Abraham, mais Marie, il laisse Marie, mais pas Myriam. Je ne comprends pas. C'est cette volonté de, par le vocabulaire, mais nous parlons une langue. Si je parle français, je dis porte, je dis ami, je dis micro. Et si je parle arabe, je dis rebeb, je dis sadir, je dis microphone. Bien entendu, c'est une cohérence propre au texte. Je ne voudrais pas être irrespectueux, mais des impéricies d'analyse, même sur le vocabulaire, eh bien, il y en a quelques-uns dans l'ouvrage.
Alors, un mot pour finir, François
Jourdan. Oui, je ne peux pas dire que Injil, on va le traduire par évangile. C'est la confusion complète. On ne parle pas de la même chose. Mm-hmm. Voyez. Bon. Alors, je voudrais aussi dire que Raleb m'a reproché de citer Chador Djavan, etc. Bon, j'ai cité des modernisants. Et justement, des modernisants qui poussent à l'ouverture de l'islam. Et donc, je ne suis pas du tout bloqué. Alors, je prends des gens
intéressants. Donnez des noms et nous terminerons sur ces matières.
Par exemple, Abdelmajid Charfi ou d'autres qui sont du même genre, qui sont
même
bien connus.
Même ceux-là n'ont pas trouvé grâce aux yeux de notre ami François. Je cite une phrase qui est dans l'ouvrage.
Il
dit que Mohamed Talbi et Ali Merad, pourtant ils sont ouverts, bien ils reconnaissent que le Coran est parole de Dieu. Il ne leur manquait que de ne pas reconnaître que le Coran étant parole de Dieu. Ils seraient plus musulmans.
C'est pas ça.
Et on poursuivra ça.
Excusez-moi, pour savoir ce qu'il en est exactement,
je renvoie peut être double,
au livre de François Jourdan, donc, avec une préface de Rémi Brague, « Dieu des chrétiens, Dieu des musulmans, des repères pour comprendre ». Ce livre est publié aux éditions de l'œuvre. Merci Khaled Bencher, merci François Jourdan. La semaine prochaine, l'émission aura pour titre « Décolonisation, paysage après la bataille ». Mes invités seront Élie Béji et Boualem Sansal. C'était Réplique, une émission d'Alain Finkielkraut avec la collaboration de Claire Poinsignon et Didier Lagarde, à la technique Alexandre Dang. Dans un instant, Jean-Noël Jeannonet.